Bonjour à tous, les controverses du village, épisode numéro 2. Aujourd'hui, la fiction de Canal+, à 5 ans, la troisième saison d'Engrenage, la toute première série dramatique de Canal+, arrive à l'antenne. C'est l'occasion de faire un bilan. Tout le long du mois de mai, le village va vous proposer un très copieux dossier bilan sur la fiction de Canal+, un dossier qui a été coordonné par Dominique. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous tracer des premières perspectives de bilan? Est-ce qu'aujourd'hui la fiction Canal+ est arrivée à terme?
Oui. Non, plus sérieusement...
C'était donc les controverses du village.
On a décidé de faire concis, ce mois-ci. La fiction de Canal+, c'est à la fois une évolution. On sent que les séries, pour la plupart en tout cas, s'améliorent, surtout quand on voit de quoi ils sont partis, mais globalement, c'est issu d'une rupture complète. Quand Canal se décide à faire des séries télévisées en France, il n'y a pas de modèle qui existe. Il n'y a aucune base de travail. Les maisons de production, pour la plupart, savent pas forcément comment travailler. Résultat, ils sont obligés d'imposer des règles et d'imposer des modes de fonctionnement. Et issu de cette rupture-là, on a Engrenage saison 1 qui arrive, qui a la chance énorme d'avoir un très bon retour presse et un bon retour public, et d'être acheté par la BBC. Et de là, ils arrivent à progresser, à faire avancer les choses. Sachant, comme on l'a déjà écrit chez nous à de nombreuses reprises, que si le retour presse a été bon pour la plupart, il n'a pas été bon chez nous et chez certains autres, qui ont su voir plus loin que le côté « ah oui, ça change » de Julie Lescaut, pour s'apercevoir que Engrenage saison 1 ne fonctionne pas, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Au niveau des thèmes développés, c'est même assez puant, clairement. Mais malgré ça, ils ont réussi quand même à apprendre de leurs erreurs, étant donné qu'ils changent totalement l'équipe entre la saison 1 et la saison 2. C'est la première fois que ça leur est arrivé, mais ça leur est arrivé plus tard. Donc ils savent apprendre de leurs erreurs, ils savent évoluer, ils arrivent à créer un modèle qui n'existait pas avant, dont s'inspirent les autres chaînes maintenant, enfin certaines en tout cas. Donc fondamentalement, sans parler de la qualité du programme, au niveau d'élan, c'est une réussite.
Toi, Émilie, t'es un peu plus récemment convertie à la fiction Canal+. Finalement, c'est assez récemment que t'as commencé à en voir plus. Comment voilà, t'appréhendes, toi, la fiction Canal+?
Convertie, j'irais peut-être pas jusque-là. Ça va déjà donner le ton. C'est-à-dire que moi, j'avais beaucoup entendu parler d'Engrenage saison 1, donc un peu tardivement, mais je m'y étais mise. J'avais vu les épisodes. En effet, un peu comme ce que tu disais, Dominique, c'est un peu l'idée, ça change. Ça fait du bien, ça change. Maintenant, récemment, j'en ai vu plus. Donc, j'ai vu Pigalle, j'ai vu Reporter, en partie seulement, mais j'ai vu la saison 2 d'Engrenage. Braco, je passerai de commentaires dessus. Mais par exemple, sur le cas de la saison 2 d'Engrenage, j'ai pas pour autant trouvé le côté... ça rebooste, il y a des failles dans la saison 1 et la saison 2 booste. Donc en globalité, pour l'instant, je ne m'y retrouve pas. Soit je leur trouve des défauts, soit je trouve qu'elles n'avancent pas, ou alors c'est juste qu'elles ne me touchent pas. Moi, je fais partie de ceux qui ont regardé Pigalle, vont pouvoir faire une analyse de Pigalle en disant « oui, ça c'est bien, c'est lisse, c'est très bien écrit, il n'y a pas de feeling ». Donc je suis dans le public... un peu laissé à part par Canal. Je n'ai pas accroché à toute cette fiction-là et à l'ancienne vague de fiction comme H ou autre où ils étaient partis sur des modèles plus sitcom, je n'accrochais pas non plus.
Mais c'est amusant de voir justement les grandes directions de Canal+ au niveau de sa fiction, c'est qu'il n'y en a pas. Mm. C'est toujours dans la rupture. Quand ils ont essayé de faire leur période, ont fait des sitcoms parce que les sitcoms ça marche, ils se sont lancés là-dedans, ils en ont lancé 6 ou 7 ou 8 et puis ils se sont arrêtés. Quoi.
Il n'y a plus rien.
Et c'est la grande crainte en fait, c'est est-ce que ça va être pareil pour les dramatiques? Est-ce qu'à un moment, si ça commence à s'essouffler, a pu avoir autant de, de répercussions, est-ce qu'ils vont pas se dire bon bah on arrête plutôt que d'essayer de faire évoluer la chose?
Sachant que en plus c'est vraiment une tendance lourde de la fiction française, c'est-à-dire que c'est un énorme problème que la fiction française a eu depuis 30 ans maintenant, d'effectivement d'être une succession d'expériences avec jamais transmission et donc du coup jamais progression. Alors effectivement le cas de la sitcom sur Canal+, c'est-à-dire 3, 4, 7, 5 ans de sitcom, du pouf, ça s'arrête et toute cette expérience-là disparaît dans la nature et il n'en reste plus aucune trace 5 ans après. C'est effectivement très caractéristique de beaucoup de choses qu'on puisse passer. Je dois dire que sur ce point-là en particulier, je suis relativement optimiste, dans la mesure où il me semble qu'ils ont réussi à creuser le sillon suffisamment fort pour que des gens aient repris déjà le modèle sur d'autres chaînes en l'ajustant. Enfin, typiquement, l'approche d'Arte, c'est bon, Canal fait beaucoup dans le noir et dans le policier, on va essayer de faire dans le social et dans la comédie, mais quand même, on prend le modèle Canal et on se positionne par rapport à lui. Et on voit aussi des projets, entre guillemets, Canal, qui arrivent sur France Télé. Le cas le plus, entre guillemets, caricatural, c'est Les Beaux Mecs. Donc la série de Virginie Braque réalisée par Gilles Bagné, donc c'est déjà des créatifs estampillés fiction Canal, qui arrivent sur une série qu'ils vont proposer à Canal. Canal passe son tour et là il y a des gens qui sont prêts à sauter dessus pour récupérer ce qui arrive à dépasser, ce qu'ils vont réussir à choper de ce que Canal n'aura pas voulu développer pour une raison X ou Y. Donc j'ai quand même l'impression qu'il y a une spirale positive. Oui. Qui s'est déclenché, qui me laisse penser que quand même, ce mouvement-là, d'autant plus qu'il est rentré vraiment en conjonction avec une époque où les séries ont pris une importance, etc., devrait laisser des traces, malgré tout, à long terme, et devrait imprimer une certaine marque sur la fiction française.
Et c'est vrai que c'est le grand avantage, là, c'est que, oui, il y en a d'autres qui font fonctionner les boîtes de production de la même manière. C'est pas juste Canal qui les fait bosser comme ça, donc c'est rassurant, parce que eux aussi, quelque part, il faut qu'ils changent leur modèle, et c'est pas évident, parce qu'ils fonctionnent comme ça depuis des années. Quand on demande à une boîte comme Son et Lumière de produire Engrenage du jour au lendemain, c'est sûr que ça change, et ça s'est senti dans les... Dans ce qu'on a entendu des producteurs ou des scénaristes, des réalisateurs, c'était une première saison qui était sous tension. Parce que, en gros, ils étaient balancés sur quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire, plus exactement.
Et pourtant, encore, Son et Lumière était déjà la société de production qui avait fait Avocat et Associés. Ça veut dire que c'était une des rares sociétés de production qui avait déjà une expérience d'avoir fait 12 épisodes, d'avoir fait du 52, et en plus d'avoir fait du 52 au rythme de 12 épisodes par an, parce qu'Avocat et Associés tournait 6 fois 2 épisodes par an. Donc il y avait quand même une certaine habitude d'une certaine industrialisation. Et pourtant, malgré ça, effectivement, ça leur a demandé une grosse adaptation. Et c'est aussi intéressant ce que tu disais par rapport à la manière dont Canal a créé sa recette autour des dramas, et aussi justement dans la comparaison avec l'époque sitcom, où c'est une époque où ils sont allés chercher la formule de la sitcom clé en main aux États-Unis, et ils ont ramené la formule ici en copier-coller. Bon, ben on va tourner ça pareil, on prend un décor, un public, pouf, et on fait du sitcom à l'américaine pareil chez nous. Ce qui est une démarche qui avait un certain intérêt, parce que dans le terme de la comédie, faut bien avouer que c'est pas un domaine dans lequel la télé française brille, donc sans doute qu'il va aller chercher des référents ailleurs. N'empêche que la démarche d'aller copier des systèmes de production à l'identique et à les rapatrier, c'est sans doute une démarche un peu maladroite, qui a sans doute participé au fait que cette expérience là elle a pas duré des masses, alors que là il y a eu une volonté de prendre un peu plus de temps pour installer cette formule et aussi de travailler dans la longueur. C'est vrai que c'est assez remarquable quand même que la fiction Canal ait déjà, rien que ça, tenu 5 ans, alors que finalement, le véritable succès est venu que là, dans les derniers mois, avec Braco, avec Pigalle.
Oui, parce que avant. Mais après, c'est toujours la question qu'on se pose sur la fiction de Canal+. Étant donné que Canal+ est une chaîne à péage, est-ce que ce sont des fictions qui doivent drainer de l'audience en masse, ou est-ce que ce sont des fictions de prestige? La façon de fonctionner d'HBO aux États-Unis, il y a une part d'audience, c'est indéniable. Maintenant, elle doit apporter quelque chose à l'image de la chaîne, en gros, être différente. Donc Canal+, quand ils font Pigalle la nuit, quand ils font Engrenage, ils sont assez différents du reste. Quand ils font Braco, moi j'ai un petit peu plus de mal, par exemple. J'ai pas vraiment l'impression de voir quelque chose de fondamentalement différent. Et surtout, trop proche d'Engrenage, surtout là. J'ai la chance de pouvoir voir la saison 3 d'Engrenage en ce moment. Il y a des thèmes développés dans Braco, des policiers qui se mettent en difficulté pour régler des problèmes qui sont mais du copier-coller dans la dynamique sur Engrenage. C'est un petit peu gênant.
Moi, je suis assez d'accord sur ce que tu disais par rapport à ce catalogue Canal, en fait. Parce que moi, c'est un peu ce qui me gêne dans le principe. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur le fait que Canal est moteur. C'est-à-dire qu'en effet, c'est grâce à Canal qu'on commence vraiment à se bouger sur du format 8 x 52 minutes, 6 x 52 minutes, etc. C'est ça qui a donné quand même l'élan au niveau des maisons de prod, au niveau des projets, etc., de sortir un peu des formats dont on avait l'habitude. Par contre, pour moi, le gros problème, c'est qu'on a ce moteur, mais sur un panel réduit. C'est-à-dire que Canal se limite à un ton, à une image qui, comme tu le disais, c'est des flics, quoi, les trois quarts des
cas. Des
flics,
du sombre, du dur.
Ouais, voilà, c'est vraiment du drame, enfin, les trois quarts du temps, on a quand même un peu envie de se tirer une balle à la fin de la saison, ou de se dire que c'est tous des pourris. Mais derrière ça, on se retrouve un peu à sec, quoi. C'est-à-dire que si on colle pas à ce public,
cet univers-là,
on n'a rien d'autre. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont ce moteur, mais sur une telle niche que tout le reste reste en retrait. Parce que les autres, le réflexe, c'est un peu de dire, ah bah, Canal, ça marche bien de faire des bracos, de faire des choses comme ça. Donc derrière, on se retrouve avec des TF1 qui essaient de refaire des séries policières à sa sauce. Donc derrière, on a cette diversité qu'on peut avoir dans d'autres pays qui a le même format, mais qui n'est pas mis en avant et qui n'est pas poussé. Parce que le modèle Canal marche trop bien, dans un sens.
Après, c'est vrai aussi qu'on peut noter qu'on sait, notamment voilà, pour discuter quand même régulièrement avec les gens de Canal, depuis quelques années maintenant, on sait qu'en l'occurrence, il y a souvent une volonté de leur part de développer des projets différents de leur ligne éditoriale actuelle. Je me souviens très bien qu'on était allé sur le plateau de reporters, donc ça date de 2 ans, 2 bonnes années maintenant, où Fabrice de la Patère expliquait que dans les projets qu'ils avaient envie de développer, ils auraient envie de faire des séries qui soient pas basées sur des ensembles chauds et qui soient pas du feuilletonnant, qui soient du plus bouclé par épisode, etc. Alors effectivement, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu la couleur et qu'on est resté dans un moule de séries avec au moins 6 personnages, avec du feuilletonnant très très feuilletonnant. Il ne faut pas rater un épisode d'une série Canal.
Non.
Et sur ce ton globalement, effectivement, assez sombre.
Et le problème, en fait, c'est que je pense que ça vient d'une frustration d'auteur aussi. Parce que les auteurs français qui font de la série télé depuis des années sont extrêmement frustrés, à juste titre. Et du coup, quand ils voient la fenêtre Canal+, ils se disent « Ah, pour eux, on peut faire du feuilletonnant, pour eux, on peut faire du travail vraiment sur la durée et pas se contenter d'un héros récurrent. » Et du coup, je pense que, enfin, clairement, ils veulent peut-être en faire, mais je suis pas persuadé qu'on leur en propose tant que ça, quoi.
Vraisemblablement non, et clairement, enfin, le problème est exactement celui que tu as pointé. D'ailleurs, c'était le premier dossier du village quand on a ouvert le site en 2007, c'était notre propos. C'est de dire attention, c'est bien beau que des fenêtres d'opportunité s'ouvrent, mais ne pas vouloir tout y mettre et tout y faire, ouais, juste parce que pour une fois on vous donne l'occasion, et du coup sauter à ce qui est, c'est un peu l'erreur qu'effectivement, qu'à mon avis, globalement, que les projets qu'on a proposés à Canal sont là. On a sauté dans l'hyper feuilletonnant parce que c'était la mode de l'hyper feuilleton aux États-Unis, oui, et parce qu'en plus on en avait tellement marre, que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on n'avait plus le droit de feuilletonner. Qu'il fallait tout remettre tout bien propre à la fin de chaque épisode, que là, du coup, il y avait effectivement une vraie volonté de feuilletonner, mais sauf que pour faire de l'hyper-feuilleton, à mon avis, il faut maîtriser à fond les codes d'écriture de la série télé, et que c'est pas forcément... Voilà, clairement, on a vu plein d'expériences de séries sur Canal où il y avait plein de bonnes volontés, où il y avait plein de bonnes idées, mais où ces codes d'écriture-là, ils ne sont pas suffisamment maîtrisés, ce qui est normal, je veux dire, on n'en a pas fait, ça ne s'invente pas. Mais donc, du coup, s'arrêter à des objectifs un peu moins élevé que cette figure un peu acrobatique, qui est très dure à gérer à mon avis, de l'hyperfeuilleton. Enfin, c'est une série télé, quoi. Normalement, une série télé, on doit pouvoir choper un épisode, l'épisode 10 de la saison 2, le regarder que comme ça, et en retirer quelque chose en tant que téléspectateur. Et franchement, enfin, c'est jamais le cas, quoi.
Alors, sur Pigalle, il y a quand même, au niveau de la construction, c'est quand même plus maîtrisé à ce niveau-là. Mais c'est sûrement la seule.
Moi, je trouve que sur la première saison de Mafiosa... Non, les Pigalle, je les ai tous vus. Et malgré tout, je trouve qu'en effet, il y a une structure par épisode, etc. Mmh. Mais l'intérêt de la série est clairement de les voir tous et de les voir dans l'ordre.
Oui, bien sûr.
Le côté stand-alone dans l'épisode, il est quand même faible.
Oui, mais il est présent. C'est pas le cas dans
tout. Limite, dans Mafiosa saison 1, je le trouve plus présent.
D'accord.
Parce que dans Mafiosa saison 1, par exemple, sur cette problématique de Sandra, donc d'une femme qui prend la tête d'une mafia, ce qui n'est pas le cas sur la 2. Hein. Sur la 2, vu qu'il y a ce changement d'équipe, ce changement de thématique, c'est plus du tout la même chose. Mais sur cette première saison, on a l'épisode où, par exemple, il y a cette prostituée qui retrouve au milieu du maquis et où il y a toute la problématique de, elle, maintenant, le rapport d'une femme à la tête de la mafia par rapport à la question des abus contre les femmes. Et donc, il y a, par exemple, cette thématique sur un épisode qui pourrait être détaché. Donc, sur Mafiosa, on a un peu plus ça sur la première saison. Mais c'est vrai qu'on l'a pas. Surtout. Par contre, moi, je suis pas d'accord sur le fait que... attention, le feuilletonnant. C'est-à-dire que moi, je suis une adepte du feuilletonnant, il faut le dire aussi. Mais on a déjà beaucoup de séries... À côté de ça, on a les séries TF1, par exemple, qui, eux, sont carrément dans l'opposé. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus rien de feuilletonnant. Donc, il y a de toute façon des éléments où on pourrait produire du non-feuilletonnant. Et Canal ne se... Enfin, de par son ton, ça, on en a parlé, un ton spécifique, et de par son public, de toute façon, touche pas du non-feuilletonnant.
On est d'accord, il faut feuilletonner un minimum sur Canal. Hein. Mais simplement, je pense qu'il y a... C'est pour ça que je parle d'hyper-feuilleton, en fait. Il y a une notion, quelque part, pour citer des exemples super connus que chacun va pouvoir maîtriser, on a en cherché des fictions étrangères, Buffy ou X-Files, c'est des séries qui ont une composante de feuilleton qui est forte, mais qui reste intégrée avec des stand-alone, ouais. Donc l'occasion de développer des choses, des histoires vraiment indépendantes, de s'intéresser sur un épisode à un personnage, etc. Et à côté de ça, il y a la tendance de ce que j'appelle l'hyper-feuilleton, c'est-à-dire où on te raconte une histoire continue du premier au dernier épisode, et où on découpe cette histoire-là, et où chaque élément, chaque intrigue, chaque personnage, où tout feuilletonne quasiment, et où il y a vraiment très peu de choses qui se bouclent. Et c'est ça qui, à mon avis, demande une maîtrise très particulière pour réussir à l'intérieur de l'hyper-feuilleton à donner une unité émotionnelle, un arc au personnage, etc., ouais. Un arc thématique à quelque chose dans l'épisode qui fait que une fois qu'on a vu toute la série, si jamais 2 ans après on a juste envie comme ça de se refaire un petit épisode de la série X ou Y, on peut se revoir un épisode de Lost de n'importe quelle saison. Normalement sur un épisode de Lost qui marche, parce qu'ils sont aussi quelquefois plantés, on en retire quelque chose, quoi. Il y a une vraie... l'épisode en lui-même est satisfaisant.
On a parfois l'impression sur les séries de Canal+ qu'il y a un long scénario de plusieurs milliers de pages coupé à certains endroits, et le truc qu'ils ont ressorti à mon avis du visionnage des séries et puis leur manière de le gérer, c'est faut mettre un cliffhanger à ces moments-là. Moi je le sens beaucoup sur la saison 3 d'Engrenage, où il y a certaines intrigues qui courent sur 2 épisodes qui auraient pu être bouclées en un seul, et ça aurait été beaucoup plus logique. Là, le problème, c'est que quand on prend une série, par exemple, américaine, bon, évidemment, je vais prendre Les Sopranos, ok, d'accord, on ne peut pas produire Les Sopranos à l'heure actuelle, c'est trop ambitieux pour la France, on démarre, d'accord. Mais au niveau de la construction, ça feuilletonne, les personnages évoluent, de ce biais-là, ça feuilletonne. Par contre, vous pouvez prendre un épisode des Sopranos au hasard, et en effet, comme pour Lost, en retirer quelque chose, parce qu'il y a une thématique intégrée à l'épisode. Il y a vraiment une thématique qui a un début, un milieu, une fin. Or, dans les séries de Canal+, à part, moi, je l'ai vraiment ressenti sur Braco, je n'ai pas...
Pigalle.
Sur Pigalle, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu Mafiosa, donc je ne peux pas aller dans le sens des milliers là-dessus, mais sur Pigalle, j'ai senti cette volonté de thématique. qu'il n'y a pas dans les autres, séries. C'est vraiment, on déroule l'histoire, une surprise à la fin, et puis on redéroule. On n'a pas un long fil conducteur qui lie toute la saison et plusieurs histoires qui sont bouclées par épisode. Je pense que c'est là la grosse erreur, en fait, le gros problème des séries de Canal+. Et là, clairement, sur la saison 3 d'Engrenage, c'est flagrant.
Mais est-ce qu'on n'a pas aussi une question de nombre d'épisodes ? Un problème sur le nombre d'épisodes. Parce que pour avoir une thématique feuilletonnante, comme on peut avoir sur du Buffy, comme on peut avoir sur du Lost ou autre, et pour pouvoir développer en parallèle du stand-alone, sans pour autant noyer le truc...
8 épisodes, c'est trop court.
8 épisodes, c'est un peu limite.
Oui, mais contre-exemple, Engrenage saison 3, 12 épisodes. C'est un rythme...
Bon, après, ils peuvent se vautrer.
C'est pas un vautrage complet, Engrenage saison 3, il y a
après, il n'y a pas forcément la tentative de le faire non plus. C'est-à-dire qu'ils peuvent très bien prendre le concept de 8 épisodes, le faire sur 12 et garder la même structure sur ça. Mais par contre, sur 8 épisodes ou sur 6, je vois pas comment on peut... développer une intrigue, mettre surtout sur une, parce qu'on a quand même le syndrome des premières saisons qui n'ont pas forcément de seconde saison en France. Donc mettre en place des personnages, mettre en place une intrigue pour accrocher les gens sur saison 1, en développant en plus des stand-alone sur 8 épisodes, c'est ingérable.
8 épisodes, c'est trop compliqué, mais
il
voilà.
Faut 12 ou 13 épisodes.
J'ai encore fait un papier pour le quinzo là-dessus sur Pigalle, la saison 1. L'intrigue principale, celle de Thomas, en 12 épisodes, je pense qu'elle aurait été très très dure à suivre. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses sur le dernier épisode qui vont tellement vite qu'on se dit, oula, c'est... Surtout vu le rythme de la série, c'est pas non plus un rythme hyper rapide. Hein. Donc d'un seul coup que ça s'accélère comme ça, c'est un peu étouffant, quoi. On a un peu trop. Et là, clairement, 12 épisodes, ça aurait été même ne serait-ce que 10. Mais là, clairement, pour Engrenage saison 3, ils ont 12 épisodes, et puis bon, je vais pas trahir la confidence vu que c'en était pas une. Visiblement, ils avaient de la matière pour 13. Alors là, clairement, on touche à un truc. C'est-à-dire, ils avaient de la matière pour 13. Ça veut pas dire qu'ils avaient un 13e épisode en tête, ça veut dire qu'ils avaient de la masse pour découper en 13. Et là, on touche le problème, c'est que c'est un long métrage coupé.
C'est ça, par rapport. Parce que c'est pour ça qu'effectivement, le contre-exemple de dire Engrenage, il y avait 12 épisodes et pourtant ça marche toujours pas. Oui, mais le problème, c'est que je crois que malheureusement, il y a finalement très peu de scénaristes, en général, très peu de scénaristes, y compris travaillant pour Canal, qui ont simplement conscience de ce qu'on est en train de raconter. Et qui se sont vraiment posé cette question de la structure et du rôle d'un épisode, etc. Je pense qu'effectivement, pour moi, si Pigalle la nuit marche plus sur ce plan-là, il n'y a pas de secret. Hein. C'est parce qu'Hervé Mar et Marc Kerpou, oui, ils ont clairement vraiment réfléchi à qu'est-ce que c'était qu'une série télé, et que du coup, ils sont au clair sur la question. Et alors, ils sont un peu à l'étroit dans leurs 8 épisodes, parce qu'effectivement, comme ils l'expliquent très bien eux-mêmes, notamment dans les documents qu'on a postés sur le village, la foultitude, dans nos 25 heures d'interview que vous pouvez avoir sur le site... Nous nous excusons encore une fois auprès des familles d'Hervé Admar et Marc Kerpou pour les avoir retenus pendant 15 jours. comme ils l'expliquent très bien eux-mêmes, quand un épisode de Pigalle la nuit se centre un peu sur un personnage, bah, y a 30% de l'épisode qui est consacré à ce personnage. Alors que quand il y a un centrique dans Lost... Ben c'est 60-70% de l'épisode qui est centré sur le personnage, mais ça, voire 80 des fois, mais ça, effectivement, en 8 épisodes, c'est pas possible, parce qu'il n'y a plus rien de cohérent qui en ressort à la fin, quoi, sinon.
Mais quand on voit, en fait, donc Hervé Anmar, Marc Kerpou pour Pigalle l'ont réussi, donc Hugues Pagan pour la saison 1 de Mafiosa l'a réussi, donc c'est purement et simplement des gens de télévision qui viennent de la télévision, qui savent comment ça fonctionne, et quelque part, bah, y a pas vraiment de secret quand
on demande à des cinéastes de faire une série, avec un long métrage de 8 heures.
C'est le gros problème du rapprochement de la fiction Canal+ avec le monde du cinéma, c'est que c'est une longue histoire d'amour, le cinéma et Canal+, mais des fois, ça donne pas forcément des beaux bébés. Et, on en a parlé, Olivier Marchal pour Braco ne fonctionne pas sur beaucoup de points, dont celui-là. C'est un long métrage morcelé. Scalp, qui était pourtant une série sur un univers hyper intéressant et jamais abordé, a été réalisé par pourtant un réalisateur que j'apprécie. mais qui ne fait pas de la télévision, qui le dit lui-même. Moi, je ne fais pas de la série télé, je fais du cinéma à la télévision. Donc, au-delà de tout ce que ça peut provoquer comme réaction épidermique tout à fait légitime, c'est juste une erreur. Et c'est pas le seul, c'est ça le problème. On ne fait pas du cinéma à la télé, on fait de la télé à la télé. On peut faire de la bonne télé à la télé. C'est surtout ça.
Et justement, par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir sur le format de la fiction Canal, j'avoue que moi j'ai vraiment celle-là. Est-ce que la fiction Canal n'est pas en train de devenir une fiction, une série télé de réalisateurs? et du coup, avec la question corollaire, est-ce qu'une série télé de réalisateurs, c'est possible et ça existe? Sachant que, très honnêtement, j'ai une réponse à ma question. Et que c'est que non, c'est pas possible. La télévision, dans son mode de fonctionnement, ne laisse pas assez de place aux réalisateurs pour que ça marche. Il y a un cas dans lequel ça marche, c'est-à-dire que dans l'esprit de Canal, je crois que Pigalle la nuit est aussi une fiction de réalisateur, parce que Hervé Admar la réalise, sauf que comme Hervé Admar est le premier à vous l'expliquer lui-même, dans cet état lui, Hervé Admar, il est d'abord scénariste. Et c'est un scénariste qui est passé à la réalisation
pour maîtriser
son travail, et parce qu'il avait suffisamment d'idées visuelles, et parce qu'en plus, il n'était pas sûr de trouver quelqu'un qui réaliserait aussi bien que lui, donc... tant qu'à faire, autant le faire soi-même, et il a plutôt raison, parce qu'il s'en sort carrément bien. Mais ça reste du coup, ça reste totalement l'exception qui confirme la règle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a la légitimité du réalisateur, aux yeux de ceux qui font la fiction, mais qui en vérité, en son cœur, est un scénariste, et j'en reste absolument persuadé, et pour moi, en creux, la fiction Canal le prouve. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'autre issue que ça. La série télé, c'est une création de scénariste. Le scénariste doit être le maître d'œuvre. Et les autres cas, une série de réalisateurs qui marche complètement pleinement. Moi, j'en ai encore jamais vu.
Donc, sur 6 épisodes, sur une mini-série, 8 épisodes, ouais, mais 12 épisodes par an, on le retrouve mort, pendu. et puis c'est... De toute façon, c'est pas un média de... C'est un média de réalisation aussi, mais c'est surtout un média d'écriture. Et il faut quelqu'un qui sache tenir les rênes du projet, de A à Z. Et ça ne peut être qu'un scénariste, puisqu'un réalisateur n'intervient qu'en bout de chaîne, mais en milieu de chaîne.
Et même si le réalisateur a des velléités de s'impliquer dans l'écriture autant qu'un réalisateur de film de cinéma s'implique, effectivement, le type, à la fin, il est au bout du rouleau, parce que s'il faut qu'il s'applique à fond dans l'écriture et qu'il enchaîne avec les 6 mois ou 8 mois de tournage des 8-10 épisodes, c'est sûr qu'on n'aura pas de saison tous les ans. Et puis en plus, on va avoir des morts assez vite.
Il y en a qui le font, encore, quand même. Bah, les deux Astier, ils écrivent, ils réalisent, ils font tout le Beans pendant des mois, mais... C'est sûr qu'après...
Après, je serais assez curieux de savoir leur mode de production aux Astier, surtout le demi-frère, donc Simon, savoir comment il produit Robocop, parce qu'il fournit quand même 14 fois 26 minutes qui se tiennent. Mm-hmm.
Ça, je peux te répondre après. C'est bon.
On refera un podcast. Pour un autre podcast, ouais.
On refera un podcast. Mais après c'est un problème encore plus large, c'est que pour être showrunner en France, il faut être scénariste et réalisateur de tous les épisodes. Donc
pour revenir à mon point, c'est aussi très caractéristique, c'est les Astier. D'où est-ce qu'ils viennent? Ils viennent du théâtre, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'écriture et que ce sont d'abord des scénaristes qui ensuite se mettent derrière la caméra.
La question est globale, ça a toujours été notre problème en France, même au niveau cinéma, c'est que pour beaucoup, le cinéma, c'est le réalisateur. Un film, c'est forcément le réalisateur. Derrière le scénario, tout compte fait, je pense que vous demandez à n'importe qui en France de citer un scénariste français, à part s'ils font aussi, comme des Bacri, Jaoui ou autres, s'ils sont un peu connus parce qu'ils tournent dedans ou qu'ils le réalisent, il n'y en a aucun qui saura vous citer un scénariste pur, quasiment.
Oui, et puis ça va même encore plus loin. Bacri et Jaoui, ils vont pas être considérés comme des scénaristes par le grand public français, de toute manière.
Ils vont être considérés comme
soit des réalisateurs, soit des acteurs. Le scénariste, c'est un rôle tellement obscur en France.
Chez nous, les scénaristes, ils sont dans leur boîte, ils écrivent et on n'en entend pas parler. Le problème est là. Le problème, est de toute façon, c'est que ce qu'on va voir au cinéma comme à la télé, c'est d'abord une histoire. On va pas juste voir une image, sinon on va voir une galerie de photos. Donc à partir du moment où on va avoir une histoire, il y a quand même un scénariste derrière, et ça les Britanniques et les Américains l'ont compris. Donc d'une façon différente, c'est-à-dire que, je dis pas le pool de scénaristes, c'est un modèle, on dit en France les droits d'auteur, etc., le pool de scénaristes c'est un modèle économique qu'on a du mal à mettre en place, c'est quelque chose qui est compliqué à faire, bon. Mais les Anglais ont quand même, par exemple, des éléments avec des scénaristes showrunners, et derrière le reste, et qui est-ce qu'on a comme réalisateur sur des séries anglaises? Les trois quarts du temps, c'est des petits nouveaux qui sortent d'école, qui ont fait un ou deux trucs, qui sont la main sur des épisodes. Au moins, ils viennent pas mettre non plus leur nez sur tout. Ou alors, quand ils viennent mettre leur nez, je suis désolée, quand on voit sur les Doctor Who ou les Torchwood, Eros Lyn, c'est le seul qui, de tête, c'est vrai, a été impliqué un peu plus tôt dans les processus. Mais en gros, c'est quelqu'un qui a été formé sur la série, qui adore le show, quoi. Et qui maîtrisait un peu cette histoire, et il n'était que consultatif, à mon avis, je pense pas que ça était lui qui lui laissait la main. Mais voilà, et ça, c'est notre problématique en France, c'est qu'il faut un réalisateur.
Pour le cinéma, ça fonctionne. Pour le cinéma, ça fonctionne, parce que, clairement, il y a des films où il n'y a pas vraiment d'histoire, et pourtant, c'est bluffant, parce que ça dure une heure et demie, parce que ça dure deux heures. C'est
dans
évident.
Dans le cinéma français, la plupart du temps. C'est la marque un peu de fabrique quand même.
Non, regarde, Valhalla Rising, c'est un Danois, je crois. Non, c'est pas un Danois. Enfin, je vais dire une connerie, donc je vais pas aller plus loin. Mais Valhalla Rising, c'est un film qui ne raconte strictement rien. C'est une suite d'images et et d'intentions, et c'est bluffant. Mais ça marche parce que ça fait une heure et demie, quoi. C'est sûr, quand on regarde ce film-là, on se dit, si ça dure trois heures, t'as envie de
flinguer. Et surtout, t'irais pas voir ça tous les soirs.
Non, mais c'est évident. Mais après, voilà, que le cinéma soit un média de réalisateur, en soi, ça ne me choque pas. Qu'il y ait une place au scénariste, c'est indéniable, parce que voilà. Quand même, il faut être un sacré génie pour réussir à raconter une histoire qui n'a pas d'histoire. Mais à la télé, c'est juste impossible. Et hélas, on se dirige vers ça, vers un média de réalisateur. Mais après, voilà, mais c'est aussi c'est un héritage. Hein. Pas d'aujourd'hui.
Ah non, non. C'est dans notre culture.
C'est dans notre culture. Ça va être difficile à bouger. Et, et le problème, c'est que Canal n'a pas l'air d'aller dans le bon sens.
Ah, en fait, du là-dessus. Tout.
C'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis parfaitement conscient du fait qu'on a un héritage très difficile. et qu'en tant que chaîne de télé ou quoi que ce soit, on est aussi face à des groupes de pression qui veulent pas de lâcher de terrain, que sa bataille ferme entre les regroupements de scénaristes et les regroupements de réalisateurs pour que les uns se fassent pas bouffer le beefsteak par les autres, etc. Alors, c'est pas quelque chose dont on parle énormément pour Le Village parce que j'ai tendance à penser que vaut mieux pas en parler, puisqu'en plus je pense, enfin voilà, ça m'agace assez donc n'en parlons pas, mais ces dernières années, c'est encore, enfin c'est très tendu en France entre les syndicats de réals et les syndicats de scénaristes, entre comment se répartissent les droits d'auteur sur tel épisode. Enfin, il y a des grosses guerres de tranchées qui sont enclenchées là-dessus. Donc clairement, c'est des questions de fond qu'on n'a pas du tout réglées, et voilà, enfin, qui sont. Mais le problème, c'est qu'elle, enfin, c'est ça qui est, c'est-à-dire que les chaînes peuvent pas, et malheureusement elles le sont parce qu'elles veulent pas d'emmerdes, ce que je peux comprendre, mais des chaînes ne devraient pas pouvoir être démissionnaires sur un sujet pareil. Est quand même relativement évident que c'est pas une association de réalisateurs qui va dire bon bah les gars, on a compris, en fait nous autres réalisateurs on doit lâcher le pouvoir parce que sur la série télé c'est pas notre truc, donc les scénaristes être les chefs, on accepte de se faire diriger.
C'est
assez évident que c'est pas une démarche qui est très logique, quoi.
Et là où moi ça me choque, c'est quand tu dis que les chaînes doivent pas être démissionnaires, mais là c'est pas qu'elles sont démissionnaires, c'est qu'elles sont elles vont dans le sens du réalisateur, parce que quand tu vois Mafiosa, enfin tu peux reprocher beaucoup de choses à la saison 1 de Mafiosa. Et bon, vous verrez dans mon papier, il y a des choses que je vais lui reprocher. Mais c'est une série d'un concept d'un scénariste, donc qui a été développée sur une saison, avec des maladresses, etc. Mais avec, comme je le disais tout à l'heure, un format qui se cherche et qui arrive un peu plus au format, on va dire, un format différent de ce qu'on voit d'habitude des Canals. Et on passe sur la saison 2 à une série qui a été repris par Eric Rochant, si je ne me trompe pas sur le nom.
Je ne me trompe pas.
Qui est réalisateur, qui a écrit avec Pierre Lechia, je ne sais pas prononcer son nom, c'est pas grave, L-E-2-C-I-A, le scénario, mais on se retrouve avec une seconde saison qui, tout compte fait, a des images, beaucoup d'images, beaucoup, beaucoup d'images. Et de temps en temps, il y a des éléments intéressants entre sur l'histoire, mais par contre, enfin même au niveau de la structure d'une saison, il n'y a plus rien à voir. Donc ce n'est plus pour moi de la série, c'est l'image.
C'est un travail de réalisateur de cinéma qui se dit tiens, j'ai 8 heures de programme, j'ai 8 heures de film, quoi.
Alors, Émilie, pour commencer, est-ce que donc, dans ces 5 ans de Fiction Canal qui vont passer, est-ce que tu as une série préférée quand même? Est-ce que tu en as une parmi toutes celles-là qui t'a vraiment plu?
Alors, ça va être simple, c'est j'ai une série où Blague j'ai vu la saison 1 et où j'ai pas encore vu la saison 2, certes, et qui, où je me suis dit, il va falloir que je la récupère vite, la saison 2, il va falloir que j'aille acheter mon coffret vite, c'est Reporter. Parce que c'est vrai que Reporter, et c'est vous qui m'avez branché sur Reporter, et c'est vrai que Reporter, j'ai accroché au personnage. Je suis quelqu'un qui fonctionne au personnage, qui fonctionne à l'empathie. Et j'ai accroché au personnage. Oui, on est dans quelque chose de feuilletonnant, machin. Et oui, quand même, à la fin, je suis désolée, c'est tous des pourris, c'est tous des pourris, la boîte, machin, les politiques. Enfin, en tout cas, à la fin de la saison 1, j'ai pas vu la 2 encore, je le rappelle. Mais il y a un rythme qu'on n'a pas sur toutes les séries Canal non plus. Il faut bien l'admettre, hein. Il y a des personnages forts, des personnages touchants et qui réussissent à créer une empathie. Parce que moi, ce qui m'a gêné sur Pigalle, c'est l'empathie. Pas une empathie.
Bon, ouais, Émilie, on te garde à la rédaction. Hein.
Yes.
Et Dominique?
Je ne sauvais ma place.
Bah, c'est Pigalle. Hein, c'est, je pense que c'était assez évident. Mais évidemment, j'ai aussi beaucoup de bonnes choses à dire sur Reporter. Mais c'est vrai que Reporter et Pigalle fonctionnent vraiment comme des séries, c'est vraiment bien écrit. Bon, moi, les personnages de Pigalle, il y en a qui m'ont touché quand même, donc je me suis plus senti.
C'est pas qu'ils m'ont pas touché, hein, c'est vraiment une question de.
D'accord.
Global.
Mais voilà, puis la base aussi, c'est ça, c'est l'écriture des personnages, ils sont très forts dans Reporter, très forts dans Pigalle. J'ai plus d'affinité avec Pigalle qu'avec Reporter. Maintenant, voilà. Pigalle numéro 1, Reporter numéro 2.
Bon, et puis en gros, je vais pas être original, parce que moi, c'est vraiment les deux mêmes séries aussi, mais bon, ça s'est vu, qui sont des vraies réussites, avec en fait, moi, je vais pas réussir à départager Reporter de Pigalle, pour la raison simple que, qu'en termes global, Pigalle me semble plus abouti. Je pense que qu'il y a un niveau de maîtrise qui est supplémentaire, qui est mieux. Par contre, moi, même si, enfin, j'adore Pigalle, hein, mais Reporter, c'est un kiff très particulier, ça me touche vachement.
Il y a une dimension politique.
Exactement, ça m'excite, ça me fait réfléchir. Je suis à fond dedans, je meurs d'envie de voir l'épisode d'après. Donc j'ai un espèce d'attachement un peu plus fort avec Reporter, voilà, qui.
Alors, ce qui n'empêche pas que j'ai, aussi,
ouais, il y a une espèce d'énergie, le fait, enfin la manière dont ça parle du monde et dont ça décrypte, moi c'est quelque chose, ouais, vraiment c'est voilà, c'est un gros manque que j'ai sur la série française, c'est ça, ouais. La série américaine ou la série anglo-saxonne, elle est géniale dans la manière dont elle va décrypter la société, les rouages du monde du coup américain, et y compris à plein de niveaux, c'est-à-dire qu'y compris un soap américain, ça va décrypter, décomposer la relation familiale ou la relation affective dans ce modèle culturel-là. Ce qui est très bien, mais simplement, moi, des fois, j'ai envie de vivre ça avec des personnages qui me ressemblent plus, quoi. Mmh. Pas avec des personnages pour qui l'avortement, c'est impossible, qui vont devoir rester vierges jusqu'au mariage et tout ce genre de questions, quoi. J'ai envie de voir des choses qui me sont plus proches. Et dans, voilà, dans cette manière de. Et c'est un peu le cas des deux, hein, c'est aussi pour ça qu'elle me plaise de Pigalle ou de Reporter. Pigalle, dans sa manière effectivement à la fois décomplexée et élégante dont elle parle du sexe, hein, et Reporter, voilà, dans cette description des rouages de la politique française qui me semble être très, très particulière, je trouve ça passionnant, quoi.
Oui, et puis c'est pas des copies de concepts, c'est pas des, des pompages ou des reprises de formules. Voilà, un show de flic désabusé, enfin, voilà, Engrenage, l'inspiration c'est The Wire, Braco, l'inspiration c'est The Shield, Reporter, l'inspiration, bah, elle est multiple, elle vient d'un peu partout et elle est fondamentalement française. Pigalle, c'est pareil, et même pour Pigalle, les inspirations, elles sont à la fois de la télévision mais elles sont aussi du cinéma, enfin, c'est une et c'est fondamentalement français dans la façon de gérer les conflits, dans la façon d'opposer les personnages. On s'en sent proche. C'est vrai que c'est très plaisant. Et puis quand tu disais pour bien connaître Sullivan, quand il dit que Reporter est moins maîtrisé que Pigalle, c'est surtout sur le fait de la liaison entre le scénario et la réalisation que de la maîtrise de base de l'écriture, qui sont pour les deux assez remarquables.
Et pour refaire un petit tour de table pour conclure, la fiction Canal 2010-2015, les 5 prochaines années, qu'est-ce que vous anticipez, qu'est-ce que vous voyez, Dominique ?
Du cul.
Je crois que c'est clair.
Non, en fait, oui, ça va me faire rebondir sur un point qu'on vient à peine de soulever, c'est sur la politisation des séries. C'était une ambition. Et je pense que c'est un goût prononcé de Fabrice de la Patellière de faire de la fiction politique, bon, mais aussi de parler de flics et de choses comme ça. C'est quelque chose qu'il aime, on le sent, c'est pas fin à ce niveau-là. Il continue à faire des choses qu'il aime, au moins il pourra les défendre, ça c'est, au moins c'est positif. Mais le politique, il s'en détourne assez dangereusement, je trouve. Alors, bon, dans la saison 3 de Rengrenage, il y a une trame politique, elle est locale quand même, hein, mais il y a une trame politique quand même. Mais globalement, si on regarde les séries qui sont prévues, les Borgia, je pense pas que ça va être une fiction politique. Pigalle, ça l'était pas non plus.
Maisons closes non plus.
Mais les maisons closes non plus. Pour les unitaires, il n'y a pas si longtemps, on avait eu. Sur l'ENA.
À l'école du pouvoir.
L'école du pouvoir. Et là, on a eu. Mes chères études, bon, bah voilà, le thème, c'est pas politique non plus. Donc, je sais pas, moi, il y a une distanciation sur la même année qui me gêne un petit peu. C'est le sexe à la télé ne me gêne absolument pas, que les choses soient claires, mais c'est un peu tout la même année. Et on a l'impression que ça, c'est plus du hasard, c'est presque maintenant une directrice, quoi.
Je sais pas s'ils ont fait gaffe ou pas à Canal+, mais ça a été, enfin, en termes de communication et d'enchaînement, ça a été absolument catastrophique. Ils étaient en pleine diffusion de Pigalle, ils sortent un communiqué de presse, ou je sais pas, d'une manière ou d'une autre, ça sort à ce moment-là sur les sites, donc a priori il y a eu un communiqué. Ouais. Notre prochaine série, c'est à la Maison Close, et deux mois après, ou même pas un mois après, ils diffusent un téléfilm qui s'appelle Mes chères études, sur la prostitution étudiante, du coup, je vais dire ce que j'ai pas dit à l'époque, ce qui, quand même, en termes de sujet de légende urbaine, se pose un peu là, quoi. Donc, effectivement, s'ils avaient vraiment envie que tout le monde ait l'impression que la fiction Canal, c'est des flics et du cul, eh ben, ils ont vachement réussi. Sauf que s'ils avaient vraiment envie de ça, eh ben, je les comprends pas, parce que je trouve pas ça très positif, moi, en termes d'image.
Non, mais c'est sûr.
Soit ils ont une volonté. Alors, peut-être que c'est payant en termes d'audience, donc peut-être que c'était une volonté. Honnêtement, je trouve que je suis pas sûr que ce soit si payant que ça sur le long terme. Ou alors ça a été une énorme maladresse de leur part. Et à mon avis, c'est vraiment dommage, parce qu'ils vont avoir vachement de mal à la récupérer, celle-là.
Je sais pas si c'est une maladresse, mais pour en avoir discuté avec d'autres auteurs qui proposent des projets à des boîtes de production, visiblement, l'angle du sexe, ils en veulent plus. Donc, il y a peut-être une part de hasard, mais peut-être aussi une part d'envie. Je sais pas, peut-être après le succès de Hard, tout bêtement, ils se sont dit, tiens, bah ouais, le cul, ça fait vendre, hein, la bonne maxime qui peut être utilisée à ce moment-là. Et puis après, bon, bah, je vais arrêter les jeux de mots, mais ça a été un peu l'orgie, quoi. C'était un peu beaucoup, et puis avec beaucoup de sauce avec, quoi. Donc, mais là, ils ont, je pense, enfin, d'après ce que j'en entends, je pense qu'ils font un petit peu machine arrière, qu'ils se sont rendus compte que c'était un petit peu trop. Ils ont reconduit Pigalle, c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Mais après, alors j'espère qu'ils ne vont pas reconduire les maisons closes Borgia. Je ne sais pas, les maisons closes, c'est une série. Hein,
c'est une série, c'est 8 épisodes aussi. Ouais. Bah après, on n'a pas vu, ça se trouve, on trouvait ça génial, on a très envie d'une saison 2.
Non, hein, mais c'est sûr, mais après, ce n'est pas ça qui est gênant. Enfin, fondamentalement, Pigalle est excellent, je suis très content qu'il prolonge. Ça se trouve, les Borgia, ça sera bon aussi. Je pense que les Borgia, d'après ce que j'ai compris, c'est une orientation très. À la façon des Tudors. Bon, les Tudors, ils ne sont pas habillés souvent, hein, clairement. À mon avis, les Borgia, il ne va pas y avoir un gros budget costume.
Bon, ça, c'est quelque chose, du coup, j'en profite pour faire une petite preview. C'est quelque chose sur lequel on reviendra au village prochainement. Je ne vous promets pas encore si c'est en juin ou en septembre, mais on va creuser ce problème, cette question des Borgia et de toute une vague qui est en train de se développer. C'est-à-dire que la Canal se lance vraiment avec une volonté de faire de la coprod européenne. des gros projets tournés en anglais, donc c'est le cas des Borgia, c'est le cas de trois autres séries qu'ils ont annoncées récemment. Ça vaut le coup de creuser, on va faire ça prochainement sur le village, en fait, dans un grand dossier bilan sur la fiction européenne en est où. Voilà, donc je fais un peu de teasing, c'est le programme du mois de juin, du mois de septembre, on verra. Bientôt au village. Oh là là. Et toi, Émilie, est-ce que tu penses que ces cinq prochaines années vont te convaincre définitivement de te mettre à la fiction Canal?
Je suis pas convaincue pour l'instant, du tout. C'est-à-dire que, pour moi, contrairement à la notion, par rapport à cette diffusion sur le sexe dans la fiction Canal, j'ai un peu l'impression qu'en fait, c'est plus pour se différencier, un peu à la façon des HBO ou autres, faire dans la série un peu... Nous, on fait de l'événement, nous, on n'a pas peur des conventions, on n'a pas peur... On veut choquer, on veut créer le choc, quoi, en fait. Et dire, voilà, on fait une série sur les maisons closes, on fait une série sur Pigalle, on fait un truc avec des flics qui sont pourris jusqu'à l'os, machin. Enfin, voilà, c'est le concept, un peu, on rentre dans l'art, et ça, c'est comme ça qu'on se différencie, et ça donne un petit côté prestige aussi, qui est un peu l'image qu'on a sur HBO ou autre aux États-Unis. Maintenant, moi, je m'attends à ce que ça continue dans ce principe, c'est-à-dire le côté prestige... à vouloir faire de la fiction qui se démarque, à vouloir faire de la fiction sur profonde, avoir des belles images, etc. Et ça, je suis pas sûre qu'ils vont réussir à m'accrocher avec ça.
Oui, mais ce que tu peux te dire là-dessus, en fait, c'est que si eux, ils tirent dans ce sens-là, dans l'extrême, ça peut peut-être tirer les autres.
Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté moteur, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place quand même toute une dynamique qui peut en effet faire bouger les autres chaînes et les sociétés de production aussi qui proposeront des concepts aux chaînes. C'est-à-dire que quand c'est pas assez, potentiellement, si c'est pas assez trash pour Canal, ça peut toujours aller voir ailleurs. Mais le seul point qui me gêne là-dedans, c'est est-ce qu'on va pas avoir l'effet inverse qui va être que, au départ, des chaînes vont vouloir faire regarder Canal, ils font des événements, machin, ils font ce côté-là. Est-ce que nous, on peut pas aussi essayer de faire un peu de ce genre-là, tout en même temps en l'adoucissant bien, parce que sur France Télévisions, je vois pas un sujet sur les maisons closes en série être développé, mais en l'adoucissant et du coup faire un bide et derrière dire bon bah c'est tout, bah c'est ça pour ce point-là. Donc avoir le contre-effet qui serait de trop embarquer là-dessus et que les autres chaînes ne prennent pas le contre-pied. Si on prend pas le contre-pied, on risque de planter en fait le reste des fiches.
Pour l'instant, ça a l'air de suivre. Pour l'instant, ça a l'air de suivre.
Bon, pour ma part, je suis modérément optimiste avec des réserves. C'est-à-dire que je pense effectivement qu'un système est enclenché et que mine de rien, voilà, le succès récent de Braco et de Pigalle a un peu validé l'expérience et que du coup, c'est bon, la fiction Canal est ancrée et qu'ils vont pas arrêter l'année prochaine de faire des séries parce que finalement, ils se rendent compte que ça leur rapporte pas assez. Donc, je pense que la machine est lancée, c'est ce qui quand même est bon signe, ça veut dire qu'industriellement, il y a un truc qui se passe et que du coup, voilà, l'expérience peut s'acquérir et le média peut progresser. Après, j'ai des gros doutes, voilà, que j'ai déjà exposés sur Fiction Canal, série de réalisateurs. Pour moi, si on va trop dans cette direction, on va vraiment dans une impasse. J'espère qu'ils y réfléchissent et j'espère que je me trompe un peu à ce niveau-là. Et la deuxième question, c'est que c'est vraiment le problème de la ligne éditoriale. Moi, effectivement, je risque de porter le deuil longtemps de l'arrêt de la fiction politique pour le coup, c'est vraiment ça permettait à Canal, à mon avis, de se distinguer vraiment de ce qui se fait ailleurs sans avoir besoin pour autant d'aller dans le trash, exactement. Donc, du coup, c'était une distinction positive. ce qui n'est pas forcément le cas effectivement avec les flics ripoux où moi j'ai ma dose aussi quoi, clairement. Et donc après moi j'ai vraiment un besoin de diversification de la ligne éditoriale et en même temps il faut réussir à le faire, ce qui est la difficulté, j'en suis bien conscient, tout en gardant un minimum de cohérence et un minimum d'esprit Canal. Donc le gros développement en ce moment, c'est qu'on va voir arriver dans l'année à venir, c'est la comédie. Il y a eu une expérience qu'on n'a pas encore évoquée, mais finalement c'est peut-être avoir été charitable de ne pas trop s'être appesanti sur nos enfants chéris. Donc il y a eu une expérience, voilà.
Qui a eu trois saisons quand même.
Non, deux, c'est gentil. 24 épisodes, deux saisons, ça suffit, je t'assure. Je t'assure.
Ça m'avait semblé trois.
Ouais, ça semble long, c'est pour ça.
Il y avait le film, c'est vrai.
Il y avait le film avant, c'est pour ça.
C'est pour ça.
Donc voilà, j'espère qu'ils vont réussir à installer quelque chose dans la comédie et que ce sera bien et que le côté Canal va pouvoir permettre de faire quelque chose d'intéressant dans la comédie parce que la comédie française, c'est quand même super plan-plan quoi, à la télé. Et à côté de ça, enfin voilà, moi j'ai besoin de devoir investir d'autres secteurs Et j'espère qu'ils vont le faire. J'ai besoin effectivement de choses plus bouclées. J'ai besoin à la limite de séries qui se centrent sur un ou deux héros plutôt que d'en avoir 10. J'aimerais bien commencer à avoir un peu de fantastique sur Canal.
De la science-fiction.
Je vais pas aller jusqu'à oser demander de la science-fiction. Et en même temps, s'ils sont pas capables de le faire, enfin s'ils le sentent pas, il faut pas le faire pour rien quoi. Mais il y a des scénaristes. Canal Plus, demandez à Olivier Cohn de vous faire une série fantastique. Il y a un mec en France qui est capable de le faire, c'est lui. La clé du fantastique. Non, mais ouais, je fais du lobbying. La clé du fantastique.
Non, pas du tout.
La clé du fantastique, c'est que ce soit crédible. C'est la fiction à laquelle on doit croire pour nous faire accepter tout ce qui n'est pas normal, quoi. S'il y a un mec en France qui a réussi à faire en sorte de décrire des choses de manière crédible, c'est lui, c'est aussi Admar et Harpoum, mais ils ont un peu de fantastique en l'occurrence dans leur série déjà.
Oui.
Donc allez voir Olivier Cohn et demandez-lui de faire un projet fantastique pour vous. Je suis sûr qu'il peut s'en sortir à mort. Allez-y les gars, quoi. Voilà, c'était la minute Suzyman fait du lobbying pour la série qu'il a envie de voir dans 2 ans sur Canal+.
Ouais, et puis l'autre point qu'on n'a pas abordé dans la fiction Canal+, parce qu'ils en font partie quelque part sans en faire partie, c'est tout ce qui sort sur la nouvelle trilogie. Savoir que c'est un pan de la fiction de Canal à part. Elle n'est pas sous la responsabilité de Fabrice de la Patellière. Elle est sous la responsabilité de La Fabrique, qui est dirigée par Bruno Gassiot, qui fait de la comédie, qui fait un peu de tout, mais qui fonctionne surtout sur un mode presque de recherche et développement, même s'ils ont un petit peu perdu ça de vue ces derniers temps en sortant des fictions un petit peu plus...
Consensuelles,
on va dire, voilà. Donc on n'en parle pas, mais ils en font partie. Par exemple, si vous regardez Hard saison 2 d'ici, alors, je ne sais pas quand est-ce que ça sera diffusé, je crois qu'ils ne le savent pas encore eux-mêmes.
Normalement, à peu près d'ici la fin de l'année.
Voilà, on va dire ça.
Tu te mouilles pas trop. Logiquement,
hein, allez, on a notre
sinon, c'est qu'ils sont vraiment très en retard.
C'est sous l'égide de la Fabrique et pas sous l'égide de la fiction de Canal+. Donc. L'embrayement sur la comédie, c'est pas Hard, hein. C'est pas par ça que ça va venir, c'est par d'autres séries.
Et mais du coup, justement, enfin, pour du coup, on va dire 3 mois avant de conclure, ça va être intéressant parce que du coup, le fait que Canal+ se lance dans la comédie dans le 26 minutes, à mon avis, ça va forcément devoir amener des questions aux gens de La Fabrique parce que quand ils ont fait Hard. C'était justement l'idée d'innover dans un truc qu'on voit nulle part ailleurs. Si ça devient plus normal de voir de la comédie en 26 minutes sur Canal+, pour eux, pour se démarquer, pour continuer d'être différents, peut-être que la comédie sera plus la voie prioritaire, alors que clairement, jusqu'à aujourd'hui, c'était la voie, c'était vraiment de faire beaucoup de comédie. Donc, est-ce que ça va impliquer un changement de leur ligne éditoriale? C'est peut-être une question à poser.
Alors, c'est pas vraiment une ligne éditoriale, c'est plus une histoire de goût, d'aller vers la comédie pour la Fabrique et pour la Parisienne d'Images. Après, déjà, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle trilogie, ça sera la nouvelle duologie pendant 2 ans, parce qu'il n'y aura que 2 nouveaux programmes cette année, Catch Moi et L'Expédition Darwin. Alors, je ne sais pas si c'est le titre définitif, mais enfin bon, il n'y aura que 2 séries, parce qu'il fallait intégrer là-dedans la production de la moitié de la saison 2 de Hard. Et la saison prochaine, il y aura de nouveau 2 nouveaux projets. Et là, sur le budget, en fait, la deuxième moitié de la saison de Hard. Ce qui ferait que ça crée un réel problème, en fait. Parce que c'est un programme qui s'appelle la nouvelle trilogie, qui est censé balancer de la nouveauté, qui cherche quelque chose de nouveau, avec des gens nouveaux tous les ans. Mais ils ont aussi quand même l'ambition de, surtout Bruno Gassiot, lui, il aimerait vraiment continuer les séries. Lui, pour lui, c'est des pilotes de séries, quoi. Si jamais, alors ils vont refaire très certainement Sweet Dream 5 ans après. Ils ont envie de suivre l'évolution de ces personnages sur plusieurs périodes, ce qui peut être très intéressant. Hein. Mais alors, s'ils prolongent Sweet Dream, s'ils prolongent Hard. Il suffit que l'an prochain, cette année, ils aient un nouveau succès. Ça ne sera plus la nouvelle trilogie, ça sera la trilogie comme l'an dernier. Mais c'est un réel problème. Ils ont un budget, ils ne peuvent pas aller au-delà. Et du coup, ils ne peuvent fournir qu'un certain temps de fiction par an. Et ça va devenir un réel problème si ça, si ça migre pas ailleurs, c'est-à-dire sous l'égide de David de Fabrice de la Patellière ou d'une autre.
C'est-à-dire que sans migrer, enfin, je pense qu'il y a un vrai regret on a eu du côté de Canal+ à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ça reste entre les mains de Gassio et de Galu et de la Fabrique.
Oui, tout à
mais,
fait.
Mais sans migrer du coup dans le portefeuille de Fabrice de la Patellière, je trouve ça vraiment très regrettable que Canal+ n'ait pas débloqué un budget particulier pour la saison 2 de Hard, sachant que la première saison de Hard a été un succès assez exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé une première fois la saison dans le cadre normal de la nouvelle trilogie à 22h30 en semaine, je ne sais plus quand c'était programmé cette année-là, et ça a tellement marché qu'ils ont fait une rediff en prime time en juin, genre 2 mois après du coup, parce qu'il y avait tellement un buzz de Hard, et ça a super bien marché en prime time, donc le succès était tellement là, honnêtement, la qualité d'écriture est là, ils auraient, honnêtement, à Canal+, je suis sûr qu'ils ont, honnêtement, 12 saisons de Hard, ça ne va pas non plus, ça coûte un peu d'argent, mais ça doit coûter 3-4 millions, j'en sais rien.
Oui, oui.
À mon avis, il y a moyen quelque part de trouver 3-4 millions à Canal+, et ils ont été un peu rats sur ce coup-là, quoi, honnêtement.
Oui, surtout que ça crée des problèmes de structure derrière, parce que, en gros, l'argent pour la Fabrique va à la Parisienne pour fournir du temps. S'ils n'ont pas plus d'argent à la Parisienne, ils ne peuvent pas recruter plus, ce qui fait que voilà, ils sont obligés de gérer avec les deux nouvelles fictions qu'ils doivent faire, avec des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'audiovisuel, plus relancer une deuxième saison, ce qui n'est jamais évident, c'est souvent casse-gueule les deuxièmes saisons, avec Hard, avec le même, à peu près, en tout cas, j'ai pas les chiffres, attention, à peu près le même portefeuille. C'est un vrai problème. S'ils veulent vraiment développer cet aspect-là, alors c'est un petit peu, ils ont un petit peu le cul entre deux chaises, j'ai l'impression, parce qu'ils veulent le continuer, mais en même temps, ils veulent pas le faire développer. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à le continuer à moitié, en fait, sans avancer, sans progresser, ça finisse par disparaître, parce que voilà, parce qu'il n'y a pas d'émulation derrière.
Bon, et ben, je vous remercie à tous de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous aux environs du mois prochain avec de nouvelles controverses.
Voilà, d'ici à la fin de l'année, comme la deuxième saison de Hard, il y aura un autre podcast.
C'est bien, on se mouille pas trop.
On se mouille pas, non.
À très bientôt, bonjour chez vous.